Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco!
Kaká in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká!
Pallone che arriva, Trezeguet! Totti! Trezeguet! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Per tutti noi Matador, ci prova con il testo, la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador, mamma mia Matador.
Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 12 du podcast Calcio et Pépé. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan et salut à tous.
Alors Guillaume, on va revenir un peu sur les derniers matchs en Serie A, la dernière journée de Serie A, et puis les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League qui se sont déroulés mardi, mercredi et jeudi. On va faire comme il y a 15 jours, on va partir de thème pour aborder un peu tout ce qu'on a vu lors de ces matchs différents. Je te propose de dérouler le sommaire assez rapidement pour ouais. Nos auditeurs. On va donc commencer par le cas Gattuso à l'AC Milan. On sait que l'AC Milan est dans une situation assez inconfortable en championnat, même s'ils ont un match de moins que les autres équipes. Ils viennent de perdre en Europa League également, et on va se poser la question des raisons de ce début de saison très moyen et de la position de Gattuso. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui certain qu'il pourra finir la saison avec l'AC Milan, et éventuellement quelle faute on peut lui attribuer? On passera ensuite à la défense de la Roma. En quelque sorte, on va se demander si c'est un peu un boulet pour la saison. On reviendra un peu sur le mercato estival, sur les recrues qui ont été faites ou sur l'absence de recrues à certains postes clés. Et on commence à voir un peu ces manques depuis le début de la saison. Et plus ça va, moins il y a de choses qui vont en défense et moins il n'y a pas de progrès en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, on fera un petit focus sur Alan, que le grand public français a découvert lors du match contre le Napoli. Nous, on en parle très régulièrement sur ce podcast, mais on continuera notre focus sur le milieu du Napoli. Ensuite, Guillaume, João Cancelo, l'homme très oui. fort de la Juve. On reviendra un peu sur ses performances, sur sa montée en puissance aussi, puisque depuis le début de la saison, on voit une progression assez linéaire. Cinquième sujet, Immobilier et Caicedo, la doublette qui a marché sur l'OM en Europa League, une doublette un peu surprenante parce que,
ouais.
Bon, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais pour teaser un peu, c'est deux joueurs qui étaient censés être en concurrence pour le poste de prima punta, et en fait, tous les deux associés hier ont fait très mal au club français. Et puis enfin, on reviendra sur l'Inter. Alors l'Inter, c'est un peu curieux parce que on a titré un peu ce thème-là, l'Inter en mode OM 2017-2018. Non pas parce que les clubs sont au même niveau actuellement, évidemment que non, mais c'est parce que on note chez l'Inter une capacité à se transformer lors des matchs importants et surtout à ne rien lâcher. Donc en quelque sorte, on va faire le parallèle sur l'état d'esprit vraiment qui leur permet d'accrocher des résultats depuis le début de la saison. Et puis dans le jeu, bon, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, même si sur certains matchs, mais il n'y a pas vraiment de régularité dans le jeu. C'est un peu comme l'OM la saison passée. Et vraiment, tout se fait, enfin pas tout, mais une grande partie se fait sur l'état d'esprit, le fait de ne rien lâcher. Et on aura quelques stats pour étayer un peu ce propos. Guillaume, j'ai beaucoup parlé déjà et je vais donc te laisser commencer par notre ami Gennaro Gattuso. Alors on disait en préambule tout à l'heure avant de commencer le podcast, l'AC Milan a quand même déjà plus ou moins dégradé, si on peut dire comme ça, l'image de deux de ses anciens grands joueurs lorsqu'ils sont passés sur le banc de l'AC Milan, que sont Pippo Inzaghi et Clarence Seedorf. Est-ce que Gattuso sera le troisième?
Bah, c'est la grande question du moment. Après ce qui s'est passé hier soir, au-delà de la défaite qui est surprenante, je sais pas, parce qu'on savait que le Betis jouerait bien. On va dire que c'est plus la manière. C'était cataclysmique, c'était dramatique, la prestation était honteuse. Enfin, c'était sur la scène européenne, c'était vraiment une débâcle. Et, honnêtement, moi, tu te souviens, on a souvent parlé de Gattuso. Je lui aimais pas de critiques depuis quelques jours. Ça fait quand même quelques semaines que je t'en parle. C'est vrai que Gattuso, ça reste un grand joueur, mais il faut évidemment différencier le joueur qu'il a été pour Milan et l'emblème qu'il a représenté avec l'entraîneur qu'il est maintenant. Et c'est pas un entraîneur confirmé. Il a entraîné quoi? Palerme, Pise, il a été en Crète. C'est vrai qu'il a peu de chance parce que plusieurs de ces clubs avaient des problèmes économiques. À Milan, il arrive quasiment sans expérience, on va dire, au niveau européen. Et cette année, c'est compliqué. Et hier soir, ça a été, je pense, le point culminant de la détresse, parce que c'était vraiment, c'était zéro, il y avait rien. Et je pense ce qui est encore plus inquiétant, c'est ses paroles d'après-match. Je pense que tu les as lues.
Oui.
Quand il dit, je sais pas quoi faire, j'ai plus de solution, j'ai tout tenté. Je crois qu'il est passé à une défense à 3, il est revenu à une défense à 4. Et il est repassé une défense à 3 pour reprendre une défense à 4. Il a changé, je crois, 5 fois de système dans le match. Il touche un peu à tout. Comme il a dit, j'ai perdu la boussole. Il est complètement perdu. Et malheureusement, dans la lecture du match, c'est toujours mauvais. Dans ses choix, il y a beaucoup de choix qui sont contestables. Évidemment qu'il fallait faire tourner aussi parce que le championnat reste la priorité. Et bon, Borini, c'est pas l'assurance tout risque.
On peut rappeler justement, je te coupe juste Vincent, on peut rappeler les joueurs qui ont joué hier et qui sont pas des titulaires habituels. Donc il y a Reina dans les buts. Ouais. Il y avait Laxalta à gauche, Zapata en charnière centrale, Bakayoko au milieu de terrain, Borini et Cassiero sur les côtés dans le 4-3-3 immuable de notre ami Gattuso.
On va pas prendre les cas individuels parce que ce serait trop long, mais par exemple, si on prend le cas de Bakayoko, à ce rythme-là, honnêtement, c'est pas en janvier qu'il faut le renvoyer, c'est en novembre. C'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible, tu peux pas. Moi, j'étais au derby dimanche dernier. Je te promets que sur ses 5 premiers contrôles après sa rentrée, il en a raté 4. Mmh. Des contrôles. Et la base du football, il a raté quasiment tous ses contrôles. C'est affligeant, on peut pas voir ça. À Milan et à San Siro, tu peux pas. Alors, je ne sais pas si Jardim était magicien ou à l'époque, mais honnêtement, c'était cataclysmique. Encore hier, hein, il a pris 4,5 aujourd'hui dans la Gazzetta. Donc
c'est une note catastrophique, 4,5
oui, dans la Gazzetta. Oui, c'est une note catastrophique, exactement. Parce que la moyenne en Italie, on le rappelle, c'est 6. Donc forcément, 4,5, c'est pas top. Après, Gattuso est pas le coupable de tous les maux de Milan, c'est évident. Le mercato, honnêtement, est douteux.
On en revient justement à ce qu'on disait il y a quelques semaines. C'est que là, tu vois, il a fait tourner. On voit tout de suite la différence entre même si ça marche pas hyper bien cette saison, il y a quand même des postes où on voit la différence entre le titulaire du poste et le remplaçant. Des joueurs comme Zapata, comme Bakayoko, comme Borini. C'est tout de suite plus compliqué de gagner des matchs. Déjà qu'avec tous tes titulaires, t'as des difficultés.
Exactement.
C'est vrai que ça, en plus, on voit pas de progression chez les joueurs. Il y a aucun joueur vraiment où on peut se dire on peut même englober avec la fin de saison dernière, où on peut se dire, sur les 3-4 derniers mois, est-ce qu'ils ont vraiment progressé? Est-ce que t'as des joueurs où tu te dis, avec Gattuso, il nous a fait progresser? Alors, ça peut être, il y a plusieurs leviers, ça peut être sur le plan psychologique, c'est-à-dire bien entrer dans ses rencontres, être concentré tout au long d'un match. On sait que Romagnoli, c'est un très bon joueur, mais des fois il a des sautes de concentration. Bon, j'ai pas l'impression qu'il ait réussi à résoudre ça, même si Romagnoli est un très bon joueur, mais il a encore de temps en temps.
Ouais.
On l'a vu contre le derby, par exemple, son manque d'agressivité. En fait, Romagnoli, c'est un joueur qui est très élégant un peu propre. On en a fait un peu le futur, enfin le,
ouais,
le futur Nesta.
Ouais.
Mais lors du derby, le manque d'agressivité, je crois que c'est lui qui est à gauche hein, sur le centre
ouais.
Mais
même,
de Vecino, c'est ouais. pas possible dans un
hier,
derby.
Sur le premier but, c'est lui qui est en retard. Après, c'est 3 heures individuelles parce que Zapata voilà, rate aussi son coup. Reina sort trop tard et Romagnoli anticipe pas Sanabria. Donc, on va dire que c'est un concours d'erreurs individuelles, un peu comme le début de saison. Mais non, honnêtement, hier, je pense, enfin, c'était le pire match de Gattuso depuis qu'il est arrivé. Mais je pense surtout qu'on est arrivé à un point de non-retour. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et comme Gattuso, honnêtement, ses paroles, moi, j'ai vu et sa conférence de presse d'après-match et ses propos à Sky, il a l'air désabusé. Il a plus les clés. Il sait plus quoi faire.
Bah, c'est un aveu qui est quand même assez lourd pour lui parce que quand il, alors, le premier mot qu'il a dit, c'est, je suis préoccupé par l'état d'esprit. Quand on sait ce qu'il représentait sur le terrain comme joueur, si t'arrives pas à le transmettre à ton groupe, ce qui est censé être une de tes qualités premières, en tout cas dans ton management,
voilà.
Et surtout vu comme il était en tant que joueur, c'est vrai que c'est compliqué. Et l'avouer comme ça en direct, ça veut dire que t'as pas les solutions, et que t'as pas trouvé les leviers nécessaires pour que l'état d'esprit change. Et ça, je trouve ça compliqué de l'avouer aussi en direct vis-à-vis de ton groupe. Hein.
Rends-toi compte qu'en deux matchs, parce que beaucoup disaient oui, alors c'était pas les titulaires, d'accord. Mais en deux matchs, Milan a dû faire, je crois, 4 ou 5 tirs cadrés entre l'Inter et le Betis. Premier tir cadré dans le derby, 80e. Premier tir cadré contre le Betis, je crois que c'était un peu après l'heure de jeu sur une frappe toute molle de Souzo. C'est Higuain. Alors autant son attitude me plaît pas beaucoup parce qu'il est très nerveux dans le derby. Je sais qu'il a raté 3-4 contrôles au moment où il fallait pas les rater. Il a raté 2-3 déviations aussi.
Mais ça te rappelle pas quelqu'un qui est aussi été très peu servi à un moment donné et qui s'agaçait?
Un grand qui joue à la Roma.
Eh oui. Et oui. Le problème c'est que parfois ils finissent par lâcher aussi mentalement ces joueurs-là.
Exactement.
C'est ouais, qu'ils accumulent trop de frustration, d'agacement, au final, ça finit par rejaillir sur eux, alors que normalement, c'est des joueurs qui ont l'état d'esprit adéquat au haut niveau.
Et hier, Higuain, on le voit quand il pète littéralement un plomb, là, quand il reste une occasion, il va limite taper le défenseur. Enfin, on est à la 44e minute, enfin, il n'y a pas lieu d'être. Et pourtant, si, honnêtement, il était à deux doigts du rouge.
Ouais.
Mais parce qu'il n'a pas un ballon, parce qu'il n'a pas servi. Je crois qu'entre le derby et le Betis, il a dû recevoir une quarantaine de ballons maximum.
Ouais.
Et ça fait combien de temps que je t'en parle que le fait que Milan n'arrive pas à jouer, n'arrive pas à trouver Higuain, ça fait des mois et il y a aucun progrès.
Bah et puis surtout, alors, on voit, moi là où je suis inquiet, c'est quand Gattuso dit j'ai tout essayé. Moi, j'estime qu'il a pas tout essayé. Enfin, en tout cas dans ses choix de joueurs ou dans ses compositions de départ ou dans ses schémas, on en parle depuis quelques temps déjà d'essayer d'associer un joueur plus proche d'Higuain pour qu'il soit moins isolé et pour pouvoir combiner plus facilement et se créer plus d'occasions. Moi, ça, je le vois toujours pas.
Et de toute façon, dire moi, je peux en parler parce que j'y étais et dans le derby. Honnêtement, du stade, tu vois vraiment toutes les lacunes qu'il y a parce que Higuain, il a fait 2-3 appels en profondeur qui n'ont pas été servis par Bonaventura et par Bilia parce que Bilia n'a pas cette passe, ça on le sait. Mais Bonaventura, tu te rappelles, contre la Roma, c'est lui qui met la passe à Higuain quand il marque le but hors jeu.
Oui.
Et là, dans le derby, il ne la fait pas. Parce que je ne sais pas s'il a peur, s'il est contracté, mais il ne la fait pas. Et du coup, Higuain s'énerve parce qu'il n'a pas un ballon.
Et surtout, il n'y a
pas d'animation.
Et tu sais que, justement, là, quand tu dis Bonaventura peut-être peur, quand on lit les déclarations de Gattuso à la fin du match, il y a aussi une partie, moi, qui m'a vraiment intéressé, c'est où il explique que les joueurs sont fragiles et ont peur de tenter des choses. Et là, on est en plein dedans. Tenter des choses compliquées quand on n'est pas en confiance, on a peur de perdre.
Si le coach ne règle pas ça, qui sait? Ça, le problème.
Ah oui, bien sûr.
Moi, avant de partir à Milan dimanche, j'ai regardé la conférence de presse d'avant match samedi. Et alors, il est revenu en parlant du derby de l'année dernière, un vieux 0-0 très moche où Icardi, tu te rappelles, avait raté des occasions énormes.
Oui, c'est vrai.
Et il dit, on avait joué avec la peur au ventre. Il dit, demain, ce sera différent. Bon. Moi, naïf que je suis, je me suis dit d'aller voir autre chose. Et en fait, après le match, du coup, un match, une victoire largement méritée pour l'Inter, Milan qui a fait un ou deux tirs cadrés, et il a encore dit, on a joué avec la peur au ventre, mais tu nous l'as déjà dit hier et t'arrives pas à le corriger. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Enfin, j'ai l'impression qu'il a aucune influence sur son équipe. Alors, apparemment, ces joueurs le suivent, parce que Romagnoli, il n'y a même pas une semaine, disait qu'il était prêt à mourir pour lui. Ça, je veux bien le croire, hein, qu'ils sont attachés à la personne qu'il est, parce que c'est vrai que c'est un homme, Gattuso, c'est vraiment une personne qui est attachante. Mais au niveau du jeu, au niveau de l'entraîneur qu'il est, je pense qu'il n'a plus les solutions, il n'a plus les clés. Et si c'est le moment de le changer, eh ben, il va falloir, parce que au niveau classement de Serie A, ils sont pas non plus détachés, parce qu'ils ont un match en moins.
Oui.
Donc tu peux être, ah, t'es pas loin de la quatrième place non plus. En Europa League, rien n'est perdu, t'es
Non.
deuxième. Après, t'as deux déplacements à Séville contre le Bétis et en Grèce contre l'Olympiakos qui vont pas être simples. Mais bon, tu peux quand même les gérer. Par contre, c'est le moment. Si tu veux changer, c'est maintenant. Parce que si tu repères encore une autre saison, comme avec Monté l'année dernière, ce sera trop tard. Et c'est là qu'on va voir aussi si Leonardo et Maldini vont arriver à taper du poing sur la table enfin à l'instant T, parce que si c'est trop tard, ce sera trop tard et ce sera une nouvelle saison achetée pour Milan.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui pour éventuellement remplacer Gattuso? Et là, il n'y a pas
On en parlait.
50 000 options. C'est que on sait que le plus grand coach que Milan peut espérer, c'est Antonio Conte. Le problème, c'est qu'Antonio Conte ne viendra qu'avec son staff et que ça coûte très très
C'est le
cher.
problème.
Et on
C'est le
sait
problème.
que Milan, quand même, même si Milan se veut rassurant à chaque fois, etc., quand on calcule le déficit sur la période du fair play financier, c'est une catastrophe. Il y a plus de 250 millions d'euros dans le rouge. Et on peut pas se permettre non plus de dépenser sans arrêt. On sait qu'ils ont déjà anticipé le recrutement de Paqueta. C'est quoi, 35 millions d'euros, je crois?
35, ouais.
Bon, ça commence à faire beaucoup en termes de dépenses. Et à un moment donné, il va falloir aussi faire rentrer de l'argent. Sauf que, avec les saisons qui se suivent et qui ne sont pas bonnes, tes joueurs ne prennent pas de valeur non plus. Donc, pour récupérer de l'argent, ça peut être compliqué. Il y aura l'option d'achat d'Higuain à confirmer.
Ouais. Et oui, Takessi aussi
À payer.
à payer,
Ouais. Donc,
évidemment, parce que c'est vrai que
c'est quand même
c'est
très compliqué.
ouais.
Donc, Antonio Conte, moi, je veux bien y croire et je pense que beaucoup de supporters du Milan aimeraient avoir Antonio Conte. Il faut voir
Mais
si
je
c'est
m'en doute.
vraiment faisable d'un point de vue économique. Et si c'est pas Antonio Conte, derrière, il y a vraiment
Ah
pas
bah c'est
grand-chose.
compliqué. Ah, on en parlait avant le podcast en off. Bon, Denis, c'est le nom à la mode, mais honnêtement, je vois pas ce qu'il t'apporterait. C'est un entraîneur confirmé, certes, mais c'est pas cette pointure
Non.
qui va te changer ta saison. Jardim, pourquoi pas, mais voilà, il est pas dans les tuyaux. Non, le seul nom qui est vraiment, voilà, alors évidemment qu'il est très coûteux, mais voilà, moi je l'ai mis sur Twitter. Les derniers entraîneurs du Milan, c'est Brocchi qui a Monza, c'est Montella qui a pas de boulot, c'est Seferovic qui a pas de boulot, c'est Seedorf qui entraîne le Cameroun. Enfin, on est quand même. Milan n'a pas de pointure, on va dire depuis Allegri, même si c'était pas l'Allegri qu'on connaît aujourd'hui. Et on va dire encore un peu plus loin, c'est Ancelotti, le
Ouais.
dernier vrai vrai grand coach. Et l'Inter, voilà, qui était malade au même point que Milan, aujourd'hui va mieux et s'en sort parce qu'ils ont Spalletti. Spalletti, ils ont su, il a su, voilà, il a su les sortir de là. Et voilà, la marche est encore un peu longue, mais voilà, l'Inter quand même en Ligue des Champions, il y a des belles victoires, enfin, on sent qu'ils sortent la tête de l'eau. Milan, pas du tout. Milan, ils sont encore sous l'eau, noyés, et le seul remède qu'ils n'ont pas tenté, c'est la pointure. Ils ont changé de propriétaire deux fois. Ils ont changé les joueurs. Ils ont dépensé 120 millions sur le mercato, enfin, 120 millions sur le mercato l'année dernière. Ils ont tout fait, tout essayé, ça ne marche pas. La seule chose qui manque, enfin, la seule solution qui n'a pas été tentée, c'est un grand coach. Le grand coach, c'est Conte, il est libre, il est coûteux, mais au bout d'un moment, si tu veux un minimum essayer de t'en sortir, ce sera Conte. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour Gattuso, ça ne changera pas mon avis sur lui, mais l'entraîneur qui n'a encore rien prouvé jusqu'ici, malheureusement, là, il m'a l'air vraiment au bout avec Milan et je pense que c'est vraiment le moment de changer.
Et il y a aussi une autre question qu'on s'est pas posée, c'est est-ce que Conte accepterait forcément le
Oui, c'est
challenge
vrai.
AC Milan?
J'ai pensé, bah, tu sais, j'ai pensé tout à l'heure, je me suis demandé, mais est-ce que lui dirait oui? Écoute, c'est. Je sais pas. Je.
C'est pas
Est-ce.
évident hein, parce
Oui,
que
c'est
même
évidemment,
s'ils
c'est pas
sont pas
évident.
décrochés en championnat, ils sont quand même assez loin des premières places. Il y a la question économique quand même qui va se poser à un moment donné, c'est-à-dire que quelle va être la nouvelle sanction infligée par l'UEFA?
Oui, c'est
On
vrai.
le sait pas. S'ils sont privés de Coupe d'Europe, enfin s'ils retentent d'être privés de Coupe d'Europe, ou si il y a une grosse amende financière et que ça dégrade encore les conditions économiques du club, voilà. S'ils peuvent pas recruter, parce qu'on sait que Conte, il aime bien avoir un effectif quand même de très grande qualité. Hein. C'est parmi les entraîneurs qui veulent les grands clubs, les grands joueurs, etc. S'il faut, par exemple, la saison prochaine, se dire, pour lever l'option d'achat d'Higuain, il faut vendre Romagnoli. Oui, d'accord, mais derrière, il y a qui? Enfin, tu vois.
Et dis-toi que tu as des bancs aussi, tu vois, des bancs européens comme le celui du Real ou celui du Bayern qui sont pas, tu vois, qui sont pas assurés avec Kovac et Lopetegui. Donc aussi, Conte peut se dire, attends, est-ce que je vais vraiment aller me mettre dans le bourbier du Milan alors que tu as deux clubs comme le Bayern et le Real, peut-être qu'ils changeront de coach dans les mois à venir. Donc, c'est vrai que tu as beaucoup de facteurs à prendre. Après, si Milan, tu as l'occasion qui est là. Conte, pour le moment, il est libre. Alors, avec Chelsea, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a une bataille judiciaire qui est engagée. Après, voilà, si tu veux tenter le coup, il faut le tenter. Alors, financièrement, c'est vrai que c'est un gros, gros coup. Je ne sais pas si Milan peut se le permettre. Mais quand tu vois les résultats, quand tu vois le niveau, combien de fois on a vu ce genre de match du Milan contre le Betis hier, ces dernières années, c'est un éternel recommencement. Milan est dans une crise, mais noire, c'est sombre.
Ouais.
Le tunnel la sortie du tunnel est loin. Et Gattuso, tu te rappelles, honnêtement, ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait quand même quelques mois, depuis qu'on a commencé. Il y a eu des bons matchs, on a vu du beau jeu, c'est vrai. Mais on n'a jamais non plus été transcendant, ni transcendé par le jeu de Gattuso. Et je te l'ai toujours dit. Alors sur Twitter, on me disait oui, mais Gattuso, il fait bien jouer son équipe. Ça fait quasiment 15 matchs de suite qu'il prenne un but.
Oui, puis après, bien jouer son équipe, c'est, tout est relatif. Avoir la possession et ne pas en faire grand-chose, ne pas se créer d'occasion, ne pas réussir des décalages. En fait, c'est ce qu'on s'était dit une fois, c'est que le 4-3-3, il est beaucoup trop scolaire.
Mais évidemment.
Et on sait d'avance ce qui va se passer. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas, on voit pas grand chose. Moi, depuis l'arrivée de Gattuso, je vois pas grand chose, quoi.
Et surtout qu'une possession aussi basse, elle sert à quoi? Elle sert à rien. On parle souvent de Guardiola, mais le Barça de Guardiola, quand il perd des ballons, déjà, il avait un minimum de 2-3 secondes pour le récupérer, dans la moitié de terrain adverse. Et c'était une possession de l'autre côté du terrain, pas dans ta moitié de terrain. Gattuso, moi j'ai des amis qui étaient au stade, qui suivent pas Milan, qui étaient au stade pour le derby, qui m'ont dit, mais pourquoi Donnarumma relance toujours aux deux centraux sur le côté? Et ensuite, c'est toujours pareil. Les centraux, les latéraux, on essaie de trouver Çalhanoğlu, Souza, et on repasse sur notre terrain, et Higuain, il sert à quoi? À rien. Il n'y a pas de verticalité, c'est que horizontal. Et comme tu dis, c'est trop scolaire, trop stéréotypé. Et d'ailleurs, Milan ne se procure jamais l'occasion. Dans le derby, c'est promis de s'encadrer 80e. Dans un derby, tu peux pas, t'as pas le droit. Et c'est pour ça que Gattuso, honnêtement, hier, il est passé il a fait tous les schémas. Défense à 3, 2 attaquants. Et honnêtement, il n'y a pas eu masse d'occasions. Comme il l'a dit lui-même, il a perdu la boussole. Et est-ce que c'est pas un terrible aveu d'échec, côté au mois d'octobre? On va voir si on a trouvé les mots dimanche. Il y a un match contre la Samp.
Ouais, qui sera pas simple non plus.
Parce que Gianpaolo, on sait que tactiquement, en plus, il est très, 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 très préparé, pardon. Donc, il y a la Samp dimanche. Il y a le Genoa mercredi dans le match en retard. Ensuite, ils vont à Udine et ils reçoivent le Betis.
Ils vont au Betis.
Et ils vont au Betis, pardon.
Ouais.
Du coup, tu as 4 matchs en 10 jours. Donc là, je pense que l'avenir de Gattuso va jouer. Mais s'il perd contre la Samp dimanche, moi, je pense que ce sera réglé.
Bon, affaire à suivre dans ces prochains jours, du coup, sur le cas Gattuso. Notre deuxième sujet de ce 12e épisode du podcast concerne la Roma. Et sa défense qui est en très grande difficulté depuis le début de la saison. Alors, pour parler de la défense de la Roma, il faut remonter un petit peu jusqu'à cet été et au mercato estival. Alors, on sait que la Roma est dans une logique de trading pour le moment qui consiste à acheter des jeunes prospects, les faire progresser et les revendre au prix fort pour réussir à faire augmenter son chiffre d'affaires tout en étant, il y a une logique sportive aussi, qui est de se qualifier tous les ans pour la Ligue des Champions, sortir de la phase de groupe chaque année pour accumuler de l'argent, faire progresser ton chiffre d'affaires et ensuite passer à une deuxième étape qui sera celle où tu peux conserver un peu plus longtemps tes joueurs. C'est ce qu'a fait l'Atlético de Madrid quand ils ont vendu Agüero, Forlan, ils avaient vendu Felipe Luis aussi à l'époque et je sais plus qui encore. Voilà, ils sont dans cette logique-là. Sauf que là, ils sont concentrés sur... Bah évidemment, quand on est dans cette logique-là, on sait que ce qui va coûter le plus cher, c'est les joueurs offensifs. Donc évidemment, on prend pas mal de prospects depuis 2 ans sur les joueurs offensifs. Il y a eu le retour d'El Shaarawy, retour en Italie, je veux dire. Il y a eu Cengiz Under, il y a eu cet été Justin Kluivert, il y a eu Mohamed Salah. Voilà, il y a pas mal de joueurs offensifs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été ajoutés à cet effectif dans le secteur offensif. au milieu aussi, mais dans un milieu, voilà, dans la construction plus que dans, voilà, c'est pas des postes de numéro 6. Il suffit de regarder aujourd'hui dans l'équipe, hein, les postes de numéro 6, c'est De Rossi et Nzonzi. Donc c'est des joueurs qui ont la trentaine ou pas bien, bien tassé la trentaine pour Daniel De Rossi. Et dans le secteur défensif, alors moi cet été, au moment où il y avait les rumeurs sur l'arrivée de Malcolm, je me disais bon, quitte à dépenser encore 40 millions d'euros et ajouter encore un ailier, bon, j'irais peut-être plutôt chercher un numéro 6 et un défenseur central, parce que dans cet effectif-là, je trouve qu'il y avait des manques à ces postes-là. Donc Nzonzi est arrivé pour le poste de numéro 6, très bien. Bon, en même temps, il y a eu le départ de Strootman, donc c'était plutôt un remplacement qu'une arrivée supplémentaire. Mais en défense centrale, on n'a rien vu arriver. Et le problème, c'est que quand on a suivi un peu la carrière de Federico Fazio, par exemple, on a vu que l'année dernière, c'était, je vais pas dire anormal, mais il a surperformé par rapport à ce qu'il avait fait durant toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il a fait une saison exceptionnelle, la saison passée. Tu te souviens, le surnom El Comandante. Oui. Voilà, parce que effectivement, c'était, il était pas loin d'être meilleur que Manolas la saison passée, alors que Manolas, c'est la référence dans la défense de la Roma. Derrière Manolas, aujourd'hui, il y a donc Fazio, et ensuite, il y a deux joueurs. Il y a Juan Jesus, qui est tout simplement en très très grande difficulté depuis qu'il arrive à la Roma. Il l'était déjà à l'Inter. Voilà. Et puis, il y a désormais depuis cet été, Ivan Marcano. Alors Ivan Marcano, c'est un peu comme Fazio, c'est un joueur qui est assez lent, qui est censé être bon dans le jeu aérien et dans les duels. Sauf que depuis le début de la saison, à la fois en préparation, il avait été catastrophique, notamment lors d'un match contre le Real où il avait tout simplement pris l'eau lors de l'International Champions Cup. Et puis, le peu qu'on a vu là, cette saison, ça va pas. Alors après, on peut toujours dire qu'il faut le temps de s'habituer, hein, à un nouveau championnat, un grand championnat, jouer avec Porto, et jouer des Estoril, Belenenses, etc., chaque semaine, et puis arriver et jouer contre Milan, c'est pas la même chose. Très bien. Mais sauf que cette saison, Fazio retrouve un peu son niveau normal, c'est-à-dire qu'il surperforme plus, mais il a un niveau voilà correct, on va dire, voire moyen. Et puis derrière Manolas, il y a donc rien du tout. Et là, on se retrouve dans une situation où il est obligé de bricoler, tu vois, par exemple contre l'Aspal, il n'y avait pas Manolas. Donc il a aligné une charnière un peu inédite qui a pris l'eau, mais du début à la fin contre l'Aspal. Alors bon, l'Aspal, on en a déjà parlé, hein, c'est une belle équipe, ça joue bien. Enfin bon, quand t'es la Roma et que tu retournes l'Aspal, c'est 3 points ou rien. Donc ça finit en 2-0 pour l'Aspal, avec une défense vraiment catastrophique. Et sur ce match, il manquait aussi Kolarov. Et le problème, c'est que quand t'as des deux tauliers, Manolas et Kolarov, qui sont pas là, eh bien c'est très 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 compliqué. On peut ajouter à ça Bionda qui arrivait de Lens, qui a même des difficultés lui avec la Primavera. Voilà, je connais des gens qui suivent les matchs des équipes de jeunes de la Roma. Bon, c'est pas brillant pour le moment, le petit Bionda. Après, évidemment, il a encore le temps, hein, ça c'est pas un souci. Mais pour l'immédiat, la Roma se retrouve vraiment en difficulté. Et contre le CSKA Moscou, on a vu, alors oui, quand on prend la feuille de stats, on se dit, ah bon, 3-0, écoute, c'est bien, bon match, ils ont gagné, ils ont pas pris de but. Oui, enfin, si on regarde vraiment le match, le CSKA a eu quand même 2-3 très grosses occasions, avec des défenseurs quand même passifs, moi je trouve. Je trouve qu'il manque la hargne, tu vois, Fazio, il avait ce côté-là qu'il n'a plus cette saison. Manolas, du coup, il est obligé de rattraper un peu tout ce qui se passe. Donc, je trouve qu'il joue un cran un peu trop derrière, d'ailleurs. Il couvre des situations de hors-jeu, etc. Parce que il se dit, bon, je suis pas serein avec mes coéquipiers, donc, je peux pas tout rattraper, donc je vais me reculer un peu pour avoir un peu plus de chances d'intercepter les ballons ou les joueurs qui sont lancés. Et puis, la seule bonne nouvelle du côté défensif de la Roma, on avait parlé, hein, Olsen avait eu des difficultés au début de saison. Mais là, contre l'Aspal, il évite vraiment de prendre l'eau.
Le troisième sur Pétania.
Ouais, ça peut même être 4 à la fin du match s'il fait pas 2 arrêts. Et puis contre le CSKA Moscou, il fait 2 gros arrêts à 0-0, qui sont pas négligeables, hein, parce qu'on sait qu'en termes de confiance, les joueurs de la Roma, c'est pas trop ça en ce moment. S'ils avaient concédé l'ouverture du score contre le CSKA, ça aurait été encore très compliqué. Et lui, vraiment, on le voit progresser, mais on le voit progresser aussi parce qu'ils ont un entraîneur des gardiens. Je sais pas si tu connais Savoro Rani.
Oui.
C'est un des meilleurs entraîneurs de gardiens en Italie, même en Europe. C'est lui qui a fait aussi d'Alisson ce qu'il est devenu.
Exactement,
hein.
C'est allé de guerre.
Et effectivement, on voit du progrès. On voit des progrès aussi dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'on a vu Olsen anticiper 2 ou 3 fois ce qu'il ne faisait pas en sortant de son but. Donc voilà, on commence à voir des progrès chez Olsen, mais c'est pas suffisant. Et j'ai l'impression que la Roma va traîner ce boulet. Alors le boulet, c'est le fait de pas avoir recruté cet été un défenseur central de haut niveau, en se disant, bah Fabio, il a fait une saison exceptionnelle, mais il va en faire une deuxième consécutive. Bah oui, mais quand tu prends des paris comme ça, alors que la carrière entière de Fabio n'indique pas ça, c'est toujours un peu compliqué. Et à moins d'un recrutement au mercato hivernal, et encore, le mercato hivernal, c'est dans 2 mois, hein, donc d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses, la Roma risque de traîner un peu ce boulet sur toute la saison et faire que ça risque d'être assez irrégulier dans les performances et dans les résultats.
Mais je suis d'accord avec toi, surtout que, voilà, comme tu disais, Fazio, est-ce qu'en soi, au vu de sa carrière, est-ce que l'année dernière, il n'a pas surperformé?
Bien sûr.
Il a vraiment fait une saison très
bonne. C'est une saison incroyable l'année dernière.
Ouais, il est exceptionnel l'année dernière. Et c'est vrai que c'était pas, enfin, on pouvait s'attendre aussi à un déclin cette saison. Tu vois, c'est pas une énorme surprise.
Oui.
On savait bien que Fazio non plus allait pas enchaîner 2 saisons au top niveau, comme tu dis, au vu de sa carrière, on le savait. C'est vrai que moi aussi, je pensais qu'il recruterait un défenseur cet été. Ils l'ont pas fait. C'est vrai que ça a été un peu surprenant.
En fait, il y a Marcano qui arrivait libre, mais c'est pas un défenseur d'envergure vraiment.
Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, ça manque de hargne. Moi, contre la Spal, j'ai cette image de, alors, des Rossi, pas défenseur, mais juste devant. T'as des Rossi et Kolarov en tribune, t'as vu ce que ça donne sur le terrain.
Et il y avait pas Manolas non plus.
Et il y avait pas Manolas non plus, oui. Donc, forcément, quand ça te manque de hargne et de combativité, forcément, tu sombres. Et à Bologne, tu te rappelles, la passivité.
Ouais.
Sur le deuxième but, moi, voilà, sur le deuxième but à Bologne, la passivité de la défense est terrible. Et c'est vrai que, après, tu peux intervenir en janvier, mais comme tu dis, il reste 2 mois. Donc en 2 mois, faut dire que t'essayes de pas sombrer, et surtout qu'ils ont déjà encaissé, je crois, 12 buts en Serie A, donc c'est quand même
c'est beaucoup trop.
C'est beaucoup trop.
On sait que l'année dernière, la Roma gagnait beaucoup de matchs 1-0,
ouais.
2-1, 2-0.
Et tu sais bien qu'en Serie A, généralement le classement final va toujours avec le classement des buts encaissés. Toujours. Ouais. C'est toujours la meilleure défense qui finit première, la deuxième meilleure qui finit deuxième, et ça se produit depuis des années. Donc c'est vrai que la Roma va devoir corriger le tir. Il y a eu du mieux contre le CSKA, mais avant l'ouverture du score de Dzeko, hein, qui marque le premier, il me semble, c'est Dzeko. Et il y a eu 2-3 occasions pour le CSKA qui étaient quand même sans Olsen, c'est vrai que c'était limite. Donc il faut vraiment que Di Francesco trouve le bon système en défense, même dans l'animation défensive plus globalement. Et après, c'est vrai que Fazio, bon, est-ce qu'il pourra faire tous les matchs aussi? À ce niveau-là, ça va être compliqué.
En fait, tu vois, c'est même pas une question de mécanisme, parce que la défense est la même que la saison passée. Donc les repères,
oui,
ils les ont,
tu vois. Ouais.
C'est plus dans l'agressivité positive qu'il y a un souci. Et ça, c'est pas forcément qu'en défense, hein. C'est aussi l'agressivité des ailiers pour aller chercher les ballons, pour les récupérer, pour faire le geste juste devant le but. On sent que, pour l'instant, ils ont pas retrouvé cet état d'esprit qui leur a permis la saison passée. Avec un jeu au final assez moyen, on va dire, qui n'était pas le jeu de Di Francesco avec sa solo, de réussir à finir dans les 4 premiers, d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, etc. Et ça, pour l'instant, ils l'ont pas. Est-ce qu'ils vont réussir à le retrouver? Ça sera la clé pour la saison de la Roma, parce que ils pourront pas faire sans. Ça sera trop limité sinon.
Et vu que tu parlais des ailiers, alors dans cette mentalité, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un joueur vraiment que je trouve sur le plan de la mentalité assez exemplaire et qui, voilà, il essaie toujours de répondre présent, c'est Al-Sharaoui.
Oui.
Moi, je le trouve toujours exemplaire, il se bat toujours. Je repense à, je crois que c'était samedi dernier où il centre pour Dzeko qui arrive trop mollement sur le ballon, il rate un plat du pied énorme.
Ouais.
Al-Sharaoui s'énerve tout seul parce que c'est vrai qu'il en avait marre. Et c'est vrai que sur le niveau de la mentalité, alors autant Al-Sharaoui, il y a parfois quelques lacunes techniques, même si honnêtement c'est un des meilleurs depuis le début de saison, parce que moi je trouve quand même très intéressant avec la Roma, mais au niveau de la mentalité, il répondra toujours présent.
C'est là qu'on l'a vu progresser aussi, hein, parce que je sais pas si tu te souviens, c'est un truc qu'on lui reprochait à Milan quand même, l'état d'esprit parfois de se cacher, de pas aller au charbon, etc. On lui reprochait à Milan, et là c'est vrai que il a fait quand même d'énormes progrès ces derniers mois sur ce point-là.
Même défensivement parlant, hein, il rentre souvent aider le latéral. Donc voilà, si toute la Roma pouvait prendre exemple sur le niveau de combativité d'Al-Sharaoui, ce serait pas mal. Et c'est vrai que quand tu vois, alors autant Dzeko a été bon pour le CSKA, parce que voilà, il faut croire que quand il entend la petite musique, il est tout de suite meilleur. Mais c'est vrai que des fois, quand tu joues au côté de Dzeko, qui est quand même un de tes leaders, si même lui se bat pas, ça donne pas envie de se battre pour lui, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais on en revient à ce côté un peu frustré qu'il a eu et qu'il continue à avoir sur certains matchs. Et il arrive pas à s'en sortir de ça. C'est vraiment, on a l'impression que à partir
Oui.
du début du match, s'il commence à s'agacer, on sait qu'il va faire un match pourri. C'est qu'il arrive pas à surpasser ça.
Et d'ailleurs, dans l'après-match de Sky, je sais plus qui faisait la réflexion, si c'est justement, c'est pas Paolo Conte, journaliste de la Gazzetta. Et il a pas tort où il disait, j'ai l'impression que Dzeko, donc je cite, hein, il disait, j'ai l'impression que Dzeko, a envie de jouer dans une équipe de la Roma confirmée. Il a pas envie de jouer avec des petits jeunes.
Ouais.
Tu vois, qui, voilà, il faut les faire grandir, il faut qu'ils apprennent. Lui, il a plus le temps. Donc, si tu veux, lui, comme expliquait Condor, il disait, je pense vraiment qu'il veut jouer tout de suite avec des joueurs confirmés pour gagner maintenant. Il a pas envie, voilà, d'apprendre à Kluivert, à Cengiz, et à d'autres, hein, le petit Pellegrini. Voilà, et lui, Dzeko, il a envie d'être dans une équipe déjà bien rodée. Et c'est vrai que des fois, bah, tu le sens un peu agacé quand, un de ses coéquipiers rate
ouais.
une passe, rate un tir,
c'est
lui passe
vrai.
Pas le ballon. Et c'est vrai que c'est, même quand t'es son coéquipier, tu te rappelles avec Florenzi, il y a eu quelques discussions animées, avec Di Francesco aussi. Donc forcément, c'est vrai que Dzeko, et malheureusement, c'est récurrent, parce que malgré le fait que voilà, il ait gagné contre le CSKA, c'est vrai que le week-end en Serie A, il est coutumier du fait de toujours s'énerver un peu, et dans l'attitude, il est souvent loin d'être exemplaire.
Alors écoute, on va changer un peu l'ordre qu'on avait prévu dans le sommaire,
yes.
puisqu'on parlait d'état d'esprit. Je te propose de passer au sujet de l'Inter. Puisqu'on
ouais.
va en parler là d'état d'esprit. Alors on avait mis l'Inter en mode OM 2017-2018, non pas pour comparer tout de manière générale, mais c'est surtout sur cet état d'esprit qui avait permis l'année dernière aux Marseillais d'aller loin en Ligue Europa notamment, et puis de titiller l'Olympique Lyonnais jusqu'au bout pour la troisième place, alors que c'était pas forcément très bien parti en début de saison. Et on retrouve ça, je trouve que on retrouve ça dans cette Inter là. Et on va commencer, si tu veux bien, par une stat qui est assez éloquente à ce sujet là. Sur les 7 dernières victoires, 6 l'ont été par un but d'écart. Donc ça déjà, ça veut dire que tu archi domines pas forcément tes adversaires et que tu marques pas un très grand nombre de buts. Parce que c'est pas des 3-2, hein, c'est des 1-0 ou des 2-1 ou des voilà, où il y a eu même il y a eu un seul 2-0 sur les 7 derniers matchs. Et lors de ces 7 matchs, 7 buts ont été inscrits dans les 15 dernières minutes et 5 buts après la 85e minute. Voilà, et on en avait déjà parlé sur un petit peu, on avait évoqué brièvement dans un podcast précédent, c'est que cet Inter là, s'il parvient à garder cet état d'esprit, et justement, alors on a titré en mode OM 2017-2018, ça pourrait être aussi en mode Roma 2017-2018. C'est-à-dire que c'est des victoires assez étriquées, avec des buts dans les derniers instants, et globalement, bah, y a des matchs où ils se font un peu peur, hein. On se souvient du match contre le PSV, ça a été vraiment ric-rac. Tottenham, ça a été ric-rac. Je me souviens plus. La Samp aussi, le Samp, ça a été très compliqué. Mais ils s'en sortent par un état d'esprit, par l'agressivité, par le fait de rien lâcher, par le fait de toujours chercher le but même à la 94e minute. Et ça, c'est aussi ce qu'apporte Spalletti à cette équipe.
Exactement. Et bah, je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est contre la Lazio l'année dernière.
Oui.
Dans le match décisif à la Ligue des Champions, ils perdent 2-1 jusque dans les dernières minutes. Et ils imposent 3-2 et se qualifient en Ligue des Champions. Donc à partir de là, je pense que rien que ça, c'est un déclic. Et tu l'as bien vu contre Tottenham. Ils perdent 1-0, et bien ils reviennent encore au bout. Dans le derby la semaine dernière, c'est pareil. Alors qu'ils méritaient largement de gagner avant. Hein. Et pourtant, ils lâchent rien. C'était quasiment le dernier ballon. Hein. Et pourtant, ben, ils sont encore là, ils mettent leur but. Après, tu vois, des joueurs comme Nainggolan qui sont arrivés cet été, tu vois, ça fait aussi du bien pour cette mentalité. Parce que c'est vrai que c'est ce genre de joueur-là. C'est le joueur qui te donne envie d'aller au charbon, de se battre. Et Spalletti, voilà, elle a bien compris. C'est vrai qu'il a apporté cette mentalité. Contre la Samp, je crois qu'ils ont 2 buts annulés et pourtant
ouais.
ils marquent encore à la dernière seconde, donc c'est vrai que c'est une caractéristique, mais c'est hyper important de l'avoir, parce que la mentalité, au contraire de Milan, l'Inter elle l'a, et Spalletti l'entretient parfaitement. Il y a les joueurs pour, et petit à petit, voilà, hormis cette défaite contre le Barça, voilà, qui était dire qu'il voilà, y a pas grand chose à dire dessus, ils ont pas joué l'Inter, donc
sur ce match-là, Handanovic fait 9 arrêts, c'est un record dans l'histoire du club du club
voilà.
interiste pour un gardien.
Et ils venaient de avant ça, ils arrivaient de 8 victoires de suite. Donc
ouais.
C'est pas pour rien, mais c'est vrai que cette mentalité de combattant, c'est ce qui te permet aussi de gagner les matchs sur le fil, et surtout, ça a permis à l'Inter aussi, on en parlait tout à l'heure, de sortir de ces années compliquées. Parce que si t'as pas la mentalité, t'as pas la force, tu t'en sors pas. Et l'exemple parfait, bah, c'est de l'autre côté de la ville où Milan n'y arrive pas. Et l'Inter, avec un Spalletti meneur d'hommes, et honnêtement, je pense que tout le monde adhère à ses idées à l'Inter, et bah voilà, ils s'en sortent, et puis bah.
Ils engrangent aussi beaucoup de confiance, hein,
oui.
De rien, parce que.
En plus.
Tu vois, si on regarde le match contre Tottenham, c'est le but de la victoire à la 92e. Contre le
Est-ce
Milan.
Est-ce que c'est pas le déclic? Ouais.
Contre le Milan, voilà, but de la victoire à la 92e. Contre la Samp, but de la victoire à la 94e. C'est-à-dire que sur les 12 matchs effectués depuis
aussi,
le début
hein.
de la saison, ouais. il y en a quand même un quart où ton but de la victoire est arrivé dans le temps additionnel. C'est quand même
regarde
énorme.
Regarde contre la Spal, ils se font égaliser.
Ouais. Et 78e, le but de la victoire. Ouais.
Eh oui, ils marquent derrière. Et ça, c'est une marque de fabrique. Parce que t'as des équipes qui sont égalisées ou reprendre et qui s'effondrent.
Ouais.
Qui se disent, bon, bah voilà, on va, c'est pas grave. Et l'Inter, non. Et d'ailleurs, dans le derby, Milan a fait l'erreur de croire que c'est fini. Et sur un centre, on va dire, assez anodin, et bah, Icardi te punit. Et c'est normal. Et c'est vrai que voilà, cette mentalité qu'a apporté Spalletti, c'est ce qui manquait aussi à l'Inter d'avant. On se rappelle les années sombres. On se rappelle Extra Maccioni.
Oui.
Mancini bis, ça n'a pas été une réussite.
Il y a eu Pioli aussi.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu Pioli. Et pourtant, voilà, avec Spalletti, en plus du jeu qui, quand même, voilà, est un peu meilleur, même si c'est pas encore la folie, mais c'est quand même mieux. Contre Milan, ils ont été largement meilleurs. Si en plus, t'as cette mentalité-là qui te permet de rien lâcher, d'y croire jusqu'au bout, tu remportes tes matchs.
Mais c'est hyper important parce que tu vois, contre Milan, si on reprend l'action un peu, elle arrive un peu à l'arrache. Et c'est Assamoah qui fait l'espèce de ballon en cloche, là, l'espèce de retourné.
C'est Candreva.
Ah, c'est Candreva qui fait le ballon en cloche.
Pour Vecino.
Pour Vecino, ouais. Tu vois, Candreva aurait très bien pu mettre en retrait. On est à la 92e minute. Voilà, tu gères, il restait quoi, 2 minutes de temps additionnel.
Ouais.
Tu gères le 0-0, ce qui en soi est pas un mauvais résultat non plus, de prendre un point dans le derby. Alors, c'est pas l'extase, mais c'est pas un mauvais résultat.
Oui.
Et ben non, t'as Vecino qui fait la course sur le côté, lui qui est un milieu de terrain axial. Qui fait une longue course pour venir sur le côté, le centre, Icardi qui s'arrache, appel contre appel. Enfin, voilà, c'est que en plus, ils le savent maintenant, ça devient une force, c'est que même s'ils sont à 0-0, à un résultat négatif, à la 85e minute, ils vont se dire, mais on l'a fait contre Tottenham, on l'a fait contre la Sampdoria, on l'a fait contre le Milan, pourquoi on le ferait pas aujourd'hui?
Et non, et tu as raison de souligner la part de Candreva, parce que regarde à Milan, par exemple, hier, Suso, il rentre mal, t'as que Coutrone, mais Coutrone, on sait qu'il a une mentalité exemplaire, qu'il rentre bien. Et on sait généralement que les joueurs, si tu les fais rentrer à la fin, bon, bah, ils se disent, bon, il reste 10 minutes, qu'est-ce que je vais apporter à cette équipe? Et pourtant, quand Dreva, il rentre dans le derby, il fait cette passe qui est au début de l'action et qui t'apporte le but. Donc, si tu rentres bien avec cette mentalité, ça peut être que bénéfique. Et ça, Spalletti, il l'a compris. Il arrive à ses joueurs de faire adhérer ses idées. Et par exemple, voilà, je te dis, à Milan, hier, Suso, il rentre pas spécialement bien. Il y a que Coutrone qui a un peu changé la donne, mais c'est hyper important cette mentalité qu'a apporté Spalletti avec l'Inter.
Et il réussit à concerner tout le monde. C'est ça qui est aussi important.
Exactement,
parce que
ouais.
au moment où ça allait le plus mal, il a aussi aligné des fois Candreva, il l'a fait rentrer alors qu'il était sifflé, contesté, etc.
Et
résultat, dans le management, il est quand même, globalement assez bon Spalletti, et lui il a un état d'esprit, c'est il y a aucun joueur qui est plus important qu'un autre, et
mais
donc
regarde avec les tifosi, cette mentalité aussi elle va avec les tifosi, parce que c'est vrai que tous les tifosi de l'Inter pour la plupart aiment Spalletti. Il arrive à se faire aimer, et c'est vrai qu'il est assez atypique comme entraîneur. On sait que voilà, quand il exulte, quand c'est vrai que c'est particulier, et ça peut être assez antipathique pour les supporters adverses, mais pour les supporters de l'Inter, de ce que je lis et de ce que j'entends, il est quand même très apprécié, donc il arrive à concerner les joueurs, ses dirigeants qui ont une grande admiration pour lui et ses supporters.
Alors un autre club qui joue en Ligue des Champions cette semaine, c'était le Napoli, qui a donné une vraie leçon de foot au PSG, et on va donc aborder le cas d'Alan, dont tout le monde a parlé après le match. C'est vrai que c'était un peu, aujourd'hui il était un peu connu des on va dire pas des puristes, mais des gens qui suivent vraiment attentivement la Serie A. Et c'est vrai que on regarde, le grand public ne regarde pas forcément le Napoli aujourd'hui à la télévision. Et c'est vrai qu'il a beaucoup surpris le grand public en France, parce que c'est pas un nom ronflant, c'est même pas un nom qui est en équipe nationale du Brésil. Donc c'est vrai qu'on l'a pas vu à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, On va faire un petit aparté, mais ce serait bien que la Nationale fasse tout pour le récupérer et profite
absolument
du fait voilà, qu'il se pose des questions sur le manque d'intérêt de Tite, l'entraîneur, le sélectionneur brésilien. Je pense que là, il va falloir activer tous les leviers, tous les réseaux, tous les moyens possibles et imaginables pour le convaincre de porter le maillot de la Nationale, parce que on avait parlé lors du débrief du dernier match de l'équipe d'Italie, mais imagine un milieu de terrain avec Jorginho, Verratti et Alan. Bon, t'es quand même plutôt bien armé pour jouer au ballon et pour gagner des matchs. Ça, c'était pour le petit écart. Et puis, alors, Alan, c'est un joueur particulier. En fait, il avait déjà été très très bon à l'Udinese. C'était la période de l'Udinese où ils arrivaient encore à recruter des très bons joueurs avec leur système de scouting. Et là, c'est vrai que l'Udinese est depuis 3-4 saisons. C'est devenu quand même très compliqué. Je trouve qu'ils font émerger assez peu de joueurs, alors que c'était leur grande force. Mais c'est aussi le désintérêt, entre guillemets, au fur et à mesure des années, de la famille Pozzo pour l'Udinese, qui maintenant voit en Watford, leur autre club, l'élément principal de leur stratégie au niveau foot et des rentrées d'argent. Parce qu'évidemment, en Première Ligue, il y a des grosses rentrées d'argent qui sont liées aux droits TV que n'a pas l'Udinese. Avant de signer au Napoli, il fait une saison 2014-2015 exceptionnelle. Je sais pas si tu te souviens, moi j'ai retrouvé une stat, j'en avais parlé lors d'un podcast précédent et je me suis mis à la recherche de cette stat qui datait de la fin d'année 2015. C'est Opta Paolo sur Twitter qui avait mis ce classement des joueurs qui avaient gagné le plus de duels en Serie A lors de la saison 2014-2015. En tête, c'était Alan avec 127 duels gagnés, ce qui est quand même très très costaud. Le deuxième était à 84 dans ce classement. Tu imagines, c'est 43 duels de moins gagnés qu'Alan. Et en fait, Alan, voilà, c'est ça. En fait, cette statistique, elle résume un peu tout si on le voit pas jouer. C'est que c'est un joueur très fort dans les duels qui va arracher les ballons dans les pieds adverses. Alors, arracher dans le bon sens du terme, hein, c'est pas un joueur qui fait des, en plus c'est pas un joueur qui fait des mauvais gestes ou des tacles méchants. Déjà il tacle très peu. Ça c'est une caractéristique des joueurs un peu puissants qui ont des appuis très très forts. C'est-à-dire qu'ils défendent beaucoup debout. Ça leur permet d'arracher les ballons, d'étendre la jambe pour contrer un adversaire, pour récupérer le ballon dans les pieds. Il est aussi bien à l'aise dans la phase de pressing haut. Tu l'as vu contre le PSG, hein. Combien de fois il est sorti pour aller chercher le ballon dans les pieds adverses. Ou à l'inverse, il laissait venir les Parisiens pour mieux les contrer dans les 30 mètres du Napoli. Donc vraiment, c'est un joueur remarquable et on peut le dire, c'est un joueur qui manque au PSG.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le trouve aussi intéressant dans les phases sans ballon.
Ouais.
Pour couper les transitions offensives de l'équipe adverse, il est très fort, il se passe toujours bien. Et ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué, on l'a vu contre le PSG, c'est toujours bien placé, comme tu dis, pour couper les transitions du PSG qui, on sait, sont généralement très rapides. Après, dans les duels, on le connaît. À la 91e, je le revois, je sais plus c'est quel joueur du PSG, il arrive, il lui prend la balle, il obtient la faute.
Ouais.
Enfin, Alan, on sait, nous qui le suivons chaque week-end, que c'est un énorme joueur. Et c'est clairement, beaucoup de gens l'ont dit, mais c'est vrai, c'est clairement le joueur qui manque au PSG. Enfin, il a marché sur le milieu de terrain du PSG mercredi. Mais après, ce serait bien que Napoli le garde encore quelques saisons, parce que à ce rythme-là, je sais pas combien il va coûter, mais j'espère que lors du prochain mercato estival, ça bougera pas, parce que c'est vrai qu'avec ce match à Paris,
il est un peu plus sous les projecteurs, quoi.
Tu vois ce que je veux dire, ouais. On a vu que, on a l'impression que le week-end on est un peu entre nous. Intimité de la Serie A, comme tu disais, les gens regardent pas forcément le Napoli, donc on est assez tranquille. Par contre, quand tu fais ce genre de match à Paris, en Ligue des Champions, dans un match qui t'a regardé par beaucoup, forcément, tu as les projecteurs sur toi, et forcément, ça peut aussi changer les données du point de vue du mercato. Après, De Laurentiis, je pense pas qu'il veut le vendre, loin de là, et même s'il veut le vendre, j'ose pas imaginer son prix. Je pense que ça va être démentiel. Mais après, comme tu disais, techniquement, t'as tout dit, c'est quelqu'un qui gagne des duels. Et comme tu dis, il tacle pas beaucoup.
Ouais.
Il tacle pas beaucoup. Avec sa carrure, sa stature, il arrive à gagner son duel sans tacler. Il est tellement imposant, tellement
tonique.
Tellement lourd.
Il est tonique.
Exactement. Et en plus de ça, il sait aussi se projeter vers l'avant. Combien de fois on l'a vu depuis le début de saison, se créer des occasions, participer à la phase offensive. Et c'est quelqu'un qui a envie de te, toi, qui aussi motive ses coéquipiers dans le sens où quand tu vois un joueur comme ça partir vers l'avant, un peu comme Koulibaly, tu vois, quand il prend le ballon et qui monte comme un, généralement il le fait une fois par match, Koulibaly. Il prend le ballon, il monte. Et c'est vrai qu'Alan, il est un peu pareil quand il prend le ballon comme ça, quand il est si imposant que ça donne envie à tes coéquipiers de, voilà, de le suivre. Mais c'est vrai qu'Alan, voilà, nous, on n'est pas surpris. Après, je dis, par contre, ce qui m'a surpris pour le coup, c'est sa note dans l'équipe. Toi, il a eu que 6.
Ouais.
Je l'ai trouvé un peu sévère. Parce que
moi, je l'aurais mis homme du match, clairement.
Oui, bah, pour moi aussi. Mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Après, bon, de ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, tout le monde a souligné son énorme match. Ouais. Et voilà, c'est clairement le joueur qui manque au PSG, mais et il moi, est aussi bon. Il a un coffre énorme.
Et moi, je trouve qu'en plus, le Sarri lui a fait beaucoup de bien parce qu'il l'a fait progresser dans le jeu avec ballon. Puisque comme tu disais, c'est un joueur qui est très intéressant sans ballon. Il l'a toujours été. C'est-à-dire que dans la récupération, voilà, tu récupères le ballon, c'est-à-dire que tu ne l'as pas. Dans le fait d'être bien placé pour couper les transitions, même chose. Et je trouve que à l'Udinese, on voyait de temps en temps des percées balle au pied, qui étaient quand même assez rares. Ce qu'on voyait plus, c'était le fait qu'il récupère le ballon et ensuite qu'il cherchait tout de suite un point d'appui ou un joueur sur les côtés pour transmettre le ballon assez rapidement. Là, je trouve que l'arrivée de Sarri et le fait d'avoir joué plusieurs saisons avec Sarri l'a fait progresser dans l'utilisation du ballon. Bien sûr qu'il va faire encore des percées balle au pied, et ça, il l'avait déjà à l'Udinese, donc on peut pas dire que c'est un axe de progression qu'il a eu avec le Napoli. Par contre, dans l'utilisation des ballons, dans l'orientation du ballon, et non plus de toujours jouer la sécurité, parce qu'il avait tendance un peu à jouer le plus proche de lui, voilà, pour se débarrasser un peu du ballon. Là, aujourd'hui, je le trouve beaucoup plus intéressant. Il tente des transversales, des passes longues, des passes verticales. Et ça, évidemment, quand on a un joueur, quand on a un entraîneur, pardon, comme Sarri, évidemment que tu progresses aussi sur ce plan-là.
Mais même dans les petits espaces.
Ouais.
Dans les petits espaces, t'as eu les sorties de balles.
Ouais.
Enfin, ils ont envoyé le PSG se balader, parce que dans les sorties de balles, dans les petits périmètres, en une touche, comme je disais, Alan, à l'Odinès, il le faisait pas. Dans le jeu sans ballon, on savait qu'il était bon. Mais voilà, comme tu l'as bien dit, Sarri lui a apporté cette touche technique, et puis aussi cette vista. Le fait de pouvoir sortir en une touche, de prendre le renseignement avant sur où est ton coéquipier, là, c'est quasiment un milieu de terrain complet. Il a quasiment tout, Alan. Il a toutes les qualités que demande un milieu de terrain moderne. Mais et je pense pas qu'il soit si vieux que ça. Hein. Je n'ai pas vérifié avant, mais je pense pas que c'est un joueur qui est avancé dans l'âge. Donc, je pense qu'il y a encore des belles saisons devant lui. Et après, voilà, il est essentiel à Naples. Alors après, Ancelotti, tu vois, il peut aussi lui apporter... en plus de la technique de série, la tactique, parce qu'on sait quand chez Lotti, niveau tactique, c'est quand même pas un pli. Donc,
Alan a 27 ans pour.
Ah, 27 précision. Ans, ouais. Oui, bon, on va dire qu'il lui reste quelques belles années quand même.
Oui.
7 ans, c'est pas. Et après, moi, ce que j'espère, honnêtement, c'est que Mancini prenne l'avion demain et qu'il aille le convaincre. Il faut faire quelque chose, il faut faire un convoi, un bus, on part tous ensemble et puis on va le convaincre parce que.
C'est ça.
Au bout d'un moment.
Mais justement, est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il était sous les projecteurs après ce match
Oui.
Au niveau du potentiel transfert, mais est-ce ça va pas être le cas aussi pour Tite évidemment, là, il a joué contre d'autres Brésiliens qui sont au Paris Saint-Germain, donc c'est un match qui est évidemment suivi aussi attentivement par les personnes de la sélection. Est-ce que ça va pas lui permettre d'enfin toucher à cette sélection?
Bah, t'as raison. Bah, c'est vrai que c'est un bon point de vue parce que c'est vrai que avec ce match à Paris, et voilà, on sait que les Brésiliens qui sont à Paris, forcément, Tite a dû regarder le match. Donc, quand tu vois le match d'Alan, c'est pas possible de pas le convoquer lors du prochain rassemblement du Brésil. Après, voilà, il nous reste pas beaucoup de temps. La prochaine trêve, c'est en novembre. Du coup, écoute, moi, j'espère que la fédération va tout faire pour le convaincre. Après, si avec le Brésil, bon, bah, on va pas non plus crier au scandale, hein. Ce serait normal, hein.
Voilà, rappelons pour finir ce sujet, rappelons quand même que l'Udinese de la saison 2013-2014 pouvait aligner un milieu de terrain avec Alan, Zielinski et Roberto Pereira, et ça c'était quand même costaud.
C'est parfait. Oui, c'est bah oui, vu comme ça, oui.
Mais oui, c'était la fin. On va dire que c'était la fin de la belle ère Udinese qui avait commencé Dans les années 2000, la première moitié des années 2000, avec les Jean Kulowski,
Ouais.
Aquinta, etc., etc., et qui s'est
Mais
poursuivi, et Spalletti comme entraîneur d'ailleurs.
comme tu dis, depuis que la famille Pozzo s'est un peu désintéressée, tu te rappelles à un moment, l'Udinese, ils avaient combien de joueurs sous contrat?
Ouais.
Il y en avait partout dans le monde, il y en avait partout, partout, partout. C'est vrai que maintenant, c'est un peu sur le déclin. Il y a deux, trois bons joueurs. Moi, je dis beaucoup sur Twitter que Fofana, le profil de Fofana
Ouais.
plaît. Bon, moi, j'ai encore un peu de mal du point de vue technique. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de déchets. Après, ça peut devenir aussi un bon joueur. Mais c'est vrai que l'Udinese, on va dire qu'avant, c'était un bon vivier. C'est vrai que maintenant, ça s'est un peu
Ça
calmé.
l'est un peu moins, il y a encore quelques bons
Voilà.
joueurs, mais c'est vrai que...
T'as Barak qui est bon, par exemple, qui est un très bon joueur. T'as
Ouais.
quand même des voilà. Puis ils ont Lasagne. Du coup,
Notre nouvelle internationale.
c'est pour ça, il faut le dire.
C'est ça, ils ont... C'est vrai qu'ils ont... Même cette saison, ils ont quand même des bons joueurs. Quand tu regardes Mandragora, ils ont
Oui?
Rodrigo De Paul, qui est vraiment un joueur très
Ah, des pôles est très
intéressant.
bon. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Barak, que tu as précisé. Même en défense, ils ont Trostekong, le Nigérian, qui est vraiment pas mal. Larsen, le
Fofana.
Danois. Il y a Fofana au milieu de terrain. Donc, bon, après, ils peinent aussi à attirer un entraîneur d'envergure. On sait qu'ils ont fait, ils ont essayé beaucoup de choses ces dernières années. Là, c'est l'Espagnol Velasquez, qui est réputé pour amener du beau jeu et voilà. Bon, qui vient d'Alcorcón, hein, donc c'est pas non plus,
Oui.
c'est un pari. Il a, je sais plus, il a 36 ou 37 ans, je crois, de mémoire. Donc c'est un très jeune entraîneur. Là, ils sont quand même pas bien au classement. Ils sont juste au-dessus de la zone de relégation. Donc on verra ce que ça donnera pour l'Udinese. Mais c'est vrai que Alan a réussi, lui, à passer le cap après être parti de l'Udinese. Et aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Et il a un profil qui rappelle un peu on va dire le début de Nainggolan. Parce que Nainggolan s'est un peu transformé en devenant un joueur plus offensif.
Oui.
En participant vraiment beaucoup plus à la création du jeu et en étant un peu moins un joueur de duel, mais il était beaucoup plus à Cagliari et Nainggolan, et c'est vrai que c'est des joueurs qui ont beaucoup de points communs dans le jeu avec, à la fois avec et
Ouais.
sans ballon.
Et un dernier mot sur Napoli, parce que voilà, pour revenir, allez, une minute
Oui.
sur l'énorme prestation contre le PSG. C'est vrai que moi, ce que je remarque de la saison, c'est aussi la capacité d'Ancelotti à adapter ses joueurs à plusieurs postes. Là, Fabian Ruiz était voilà, dans un milieu à 4 à gauche.
Oui.
Samedi dernier, il était dans un milieu à 3, il était en relayeur. Et c'est vrai que Garmatimovic, il est central et pourtant il s'adapte bien à droite. Insigne, c'est un nouveau numéro 9. Bon, après, c'est l'exemple le plus éclatant,
Oui.
forcément. Mais Ancelotti arrive à adapter ses joueurs un peu partout. Tactiquement parlant, c'est très voilà, c'est il arrive à avoir cette flexibilité et ses joueurs adhèrent. Et c'est vrai qu'il signe en neuf, c'était pas gagné. Maximovic à droite, qui l'aurait mis?
Ouais, pas
Et
grand
honnêtement,
monde.
c'est payant. C'est contre le PSG, il est bon.
Contre
Même si j'ai
Liverpool,
eu
il avait été
contre
énorme.
Liverpool, tu te rappelles, c'est contre Liverpool, c'est là qu'Ancelotti gagne le match.
Ouais.
Parce que Sané, Salah et Firmino, ils voient pas le match. Et ils voient pas le jour. Donc. Moi, je trouve ça intéressant quand Ancelotti. Alors, on sait que voilà, il a mis du temps aussi à trouver un schéma de base, mais le fait que les joueurs soient adaptables, tactiquement parlant, un peu partout, même Zielinski d'ailleurs. Zielinski, tu peux le mettre à plusieurs postes.
Mais il a joué
Donc,
milieu gauche aussi, comme Fabien
voilà,
Ruiz.
exactement. Et c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant par rapport au dogme du 4-3-3 l'année dernière, où il y avait 11-12 joueurs maximum qui étaient utilisés par Sarri, et on sait que c'était son défaut principal. Cette année, c'est tout l'inverse. Ancelotti conserve tout son groupe et le match contre le PSG, honnêtement, certes, dominer à ce point-là, c'est une surprise. Mais moi, de ce que je connaissais du Napoli cette année, moi, de ce que j'ai vu, ça m'a pas étonné parce que c'est vrai que
Ils avaient fait
on
un peu le
trouvait
même
ça.
match contre Liverpool, hein. Liverpool n'a
Oui,
pas
en
vu le jour non
plus.
plus, hein, lors du
Mais tu
match.
vois, on savait que Napoli jouerait bien. Bon, après, certes, à certaines mesures, qui domine le PSG au Parc, c'est difficilement prévisible. Mais Ancelotti a fait jouer Napoli comme il sait le faire jouer, et ça a été encore payant dans tous ses choix, que ce soit Fabian Ruiz, que ce soit Maximovic, Mertens, parce que Milik est annoncé titulaire, c'est finalement Mertens qui a joué. Les deux ont marqué devant, donc pour le moment Ancelotti a tout juste. C'est vrai qu'en début de saison j'ai quelques doutes, et ça je l'avoue sans problème, mais là voilà, j'ai douté de Carlo et et Karim le rend bien.
C'est une belle conclusion sur le sujet. On va passer à la Lazio qui a elle aussi donné une leçon à un autre club français, l'OM. C'était jeudi soir.
T'es en train de me dire que la Serie A a dominé la Ligue 1 ? Est-ce que c'est ça que t'es en train de me dire ?
Cette semaine, on peut l'affirmer sans crainte hein, et sans relancer l'énième débat sur la valeur des championnats. Et on a choisi d'axer ce match-là sur la doublette Immobile Caicedo. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je disais en préambule, c'est que Caicedo a été quand même plutôt pris pour remplacer Immobile et de jouer comme prima punta, parce que derrière, ils ont aussi recruté le petit Correa, qui lui est censé pouvoir prendre le poste de Luis Alberto derrière l'attaquant de pointe, parce que c'est un joueur qui est très mobile aussi, Correa. Et en fait, comme Correa a été suspendu pour le match contre l'OM, Luis Alberto était blessé. Une légère blessure, mais il n'était pas convoqué. Bah, il n'avait pas trop le choix pour son secteur offensif. Alors, il aurait pu choisir de mettre un milieu supplémentaire et de mettre Milinkovic-Savic un cran au-dessus, par exemple. Mais on sait que parfois, il est peut-être un peu lent pour ce poste-là. Et puis surtout, son début de saison est quand même assez compliqué. Et là, la doublette, toi, t'as marqué sur ce match-là parce qu'elle a réussi, dans les transitions rapides qui ont fait tant de mal à l'OM, à combiner dans les petits espaces. Et surtout, moi, il y a une occasion que j'ai en tête. C'est le décalage, la superbe passe croisée dans la course de Lulic, de Caicedo, oui, qui ensuite perd son duel un peu bizarrement face à Mandanda, puisqu'il essaye de le dribbler plutôt que de piquer le ballon par rapport à la sortie du gardien de l'OM. Mais voilà, moi, je t'avoue que je ne pensais pas que Caicedo était capable de faire ce genre de geste.
Et je me souviens que tu me l'avais dit, on en avait parlé il y a quelques podcasts, tu m'avais dit, c'est vrai que, et moi aussi d'ailleurs, hein, je veux pas dire que j'y croyais, hein, mais c'est vrai que d'imaginer une doublette Immobile Caicedo, c'était difficilement prévisible. Ouais. Et Inzaghi a encore vu juste. Et hier, on l'a vu. La complicité de la défense marseillaise était assez énorme pour le deuxième but, parce que Rami, quand tu laisses Immobile partir dans l'axe, tu sais que t'es mort. Plutôt que de l'emmener sur le côté, bon, il se trouve un peu. Mais c'est vrai qu'aligner ces deux neufs, alors que, comme tu disais, en préambule, étaient censés s'alterner. Parce que c'est vrai que sinon, c'est compliqué, parce que la Lazio n'a pas non plus beaucoup de numéro 9.
Non.
Donc si tu sors, normalement, depuis la dernière, c'est Immobile titulaire, évidemment. Et c'est Caicedo généralement qui le remplace en cours de match, ou des fois il le remplaçait même pas. Mais comme disait Inzaghi hier, il l'a répété depuis des mois et des mois sur Caicedo, qu'on rappelle quand même a été très critiqué, hein, tu te rappelles, par les supporters l'année dernière, par rapport à son déficit technique, au fait qu'il avait raté beaucoup de buts. Et Inzaghi l'a encore souligné hier soir après match, où il disait Caicedo c'est quelqu'un qui a la mentalité, c'est quelqu'un qui a la bonne mentalité, qui est agréable pour le groupe, qui n'a jamais rien lâché, qui est exemplaire à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il disait, je pense que cette saison, il méritait une chance, si ce n'est plusieurs. Et c'est vrai que cette saison, il réussit tout. Et hier, on l'a encore vu, et cette paire marche bien. Alors, est-ce qu'en soi, c'est un duo qui va persister cette saison? Moi, je suis pas sûr.
Non, je pense c'est pas.
Je pense pas non plus, parce que quand Luis Alberto va revenir, il va récupérer sa place.
Bien sûr.
Je pense. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi ce plan B, parce que hier à Marseille, ça marche. Et généralement, quand il est fait jouer deux, ça marche aussi.
Bah, il le faudra ce plan B, parce que tout simplement, s'ils veulent jouer sur les deux compétitions, ce sera pas toujours Luis Alberto Immobile d'aligner, parce qu'on sait que l'année dernière, ça leur a joué un peu des tours aussi. C'est que la fin de championnat, et notamment ce match contre l'Inter, les joueurs après avaient avoué être un peu usés, etc., d'une longue saison, parce qu'ils avaient été en quart de finale, si quart de finale.
La Lazio,
quart de finale de l'Europa League. Et c'est vrai que bon, là d'avoir une solution, alors à la fois le petit Correa, même si pour l'instant on n'a pas assez vu, on l'a pas assez
tranchant,
vu.
Tranchant, ouais.
Mais c'est un très bon joueur quand même.
Oui, ça on le Correa. Sait
techniquement. Et Caicedo qui là s'affirme un petit peu, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour la Lazio, parce que ça veut dire qu'ils ont une, on va dire ça, une paire de rechange, même si c'est pas très joli.
Si, ça, c'est un peu ça.
Mais qui est valable, entre guillemets, et qui est capable de rapporter des points et de contribuer au bon résultat d'une saison.
Pour faire une analogie avec Milan, tu vois, la différence, c'est que Inzaghi sait changer devant. Et tu vois, Caicedo Immobile, est-ce qu'à Milan, tu peux pas penser à Coutrone et Higuain? Tu vois ce que je veux dire, un peu dans l'imagination, hein. C'est pas forcément les mêmes profils, mais c'est deux vrais neufs. Et quand il joue, ça marche. Donc, est-ce que ça peut aussi les idées à Milan? ça verra bien, c'est un autre discours. Mais c'est vrai que honnêtement, les deux ensemble, moi, j'aurais pas parlé grand chose dessus. Et pourtant, ils avaient encore vu juste. Et hier, le deuxième but, bah voilà, c'est l'illustration parfaite. La passe de l'immobilier, c'est un régal. Et avec de la confiance, Caicedo, bah tu vois que ce genre de but qu'il aurait peut-être pu rater l'année dernière, et bah cette année, il le marque. Et cette paire, honnêtement, voilà, comme tu dis, c'est une bonne solution de rechange pour l'Europa League, parce que tu peux pas imaginer jouer la Serie A, la Coupe d'Italie qui va bientôt arriver, plus l'Europa League, avec toujours les mêmes.
Non, c'est
pas possible. Et voilà, donc Inzaghi. Honnêtement, un jour, on fera un podcast, je pense, sur Inzaghi, parce que c'est vrai que c'est quand même une belle surprise.
Ce qu'il fait est quand même assez remarquable, avec un effectif qui n'est pas non plus dingue.
Mais honnêtement.
Profondeur de banc assez limitée. Hein.
Hier, on m'a envoyé en DM sur Twitter les deux effectifs de Milan et de la Lazio. Mmh. Honnêtement, sur le papier, est-ce que tu prends forcément la Lazio? Je suis pas sûr.
Non, pas forcément. Bah, rien qu'en termes de défense, hein, quand tu compares Wallace à Romagnoli, Caldara à Radu, bien sûr, il y a
évidemment. Mais sur le papier, on va dire que c'est peut-être que Milan est légèrement devant, mais on va dire que c'est assez équivalent. Et tu vois la différence entre la Lazio et Milan, c'est énorme au niveau du jeu, au niveau de la production, de l'animation.
T'as un entraîneur qui a imprimé un style à une équipe.
Exactement.
Et t'en as un qui n'a pas imprimé de style à son équipe.
Et d'ailleurs, Gattuso l'a voyé hier, il a dit on n'a pas d'identité.
Bien sûr.
Alors que la Lazio, c'est tout l'inverse. Hier, on a vu à Marseille, ils ont dominé. C'était quadrillé sur le terrain. Je ne sais pas si tu as vu la même chose quoi, mais tu as vu comment c'était quadrillé.
Ouais.
C'était parfait.
Ils ont quasiment pas été mis en danger la Lazio du match. Hein. C'est ça aussi.
C'était une équipe mature. Le milieu à 5 a parfaitement marché.
Ouais. Et c'est pas juste parce que les joueurs marseillais ont été en dessous. Enfin, ils ont été en dessous, mais c'est aussi parce que les joueurs de la Lazio leur ont beaucoup compliqué la tâche. Hein.
On était en droit de s'attendre un peu plus, mais la Lazio a très bien joué. C'était une équipe mature. Ils ont quasiment rien raté. Ils ont laissé passer l'oral. On va dire que de ce que je disais même aujourd'hui sur la presse italienne, c'est vrai que l'OM était très brouillonne dans sa phase d'attaque. J'ai aimé la Gazzetta qui a marqué que l'OM joue souvent la bave à la bouche. Genre, ouais. Ils arrivaient devant, un peu improvisé, alors que la Lazio c'était très droit, très quadrillé, très élaboré, très étudié, alors que c'est vrai que l'OM c'était toujours un peu foufou devant. Et la Lazio hier m'a vraiment plu. Pour revenir sur Caicedo et Immobile, c'est un duo qui est très intéressant, et c'est une très bonne solution pour Inzaghi dans les mois à venir et dans les semaines prochaines. Mais après Caicedo, c'est vraiment une surprise pour parler que de lui. Au-delà de la mentalité que souligne beaucoup Inzaghi, si même maintenant il rate plus, bon, c'est vrai qu'il a encore raté une occasion, mais s'il devient prolifique devant le but, parce que c'est pas son premier but cette saison, même en Serie A il avait marqué, ça devient très intéressant pour la Lazio devant.
Bon, et puis on va terminer ce 12e épisode par un joueur que tu souhaitais mettre en avant, qui est notre ami Jean Concello, l'arrière droit de la Juve, qui a déjà été l'objet de plusieurs de nos podcasts depuis le début de la saison, même si on passait assez vite sur lui. Mais quand même, on est obligé de revenir encore sur lui parce qu'il vient de livrer encore des prestations tout simplement remarquables.
Ouais, mais il t'a écouté parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, tu lui disais bon, faut qu'il progresse un peu défensivement, qu'il soit plus discipliné. Et honnêtement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il fait des progrès.
Ouais.
Tout n'est pas parfait, mais honnêtement, ça devient un joueur complet. Ce qu'il apporte à la Juve cette saison, c'est énorme. Que devant, il a pris une solution en plus. Si défensivement, maintenant, il arrive en plus à se réguler, à se caler avec la défense de la Juve, ça va devenir un joueur indispensable parce que dans les phases offensives, il t'apporte toujours cette solution en plus que tu ne voyais pas l'année dernière. Et c'est hyper important parce que c'est vrai que contre la Juve, on l'a souvent dit, c'est souvent les équipes regroupées. Manchester, c'était un peu tristouné, c'était mardi.
C'était triste. Ouais. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, c'était un peu tristouné, mais c'est vrai que quand c'est là, t'apportes toujours ce plus devant que tu voyais pas. Et moi, défensivement parlant, c'est vrai que tu as beaucoup souligné, et tu l'as souligné à juste titre. Hein. Mais alors, je sais pas si toi tu l'as vu, mais défensivement parlant, on peut quand même dire qu'il est en net progrès.
Il est en net progrès, bien sûr.
Ouais, et au fil du temps, ça va devenir. Enfin, en plus, c'est un latéral moderne, pardon. Il attaque, il défend, il est complet, il est technique, il centre bien, il a tout. S'il continue comme ça, On peut dire sans problème aujourd'hui que c'est quand même un des meilleurs latéraux d'Europe.
Oui.
Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais s'il continue comme ça, il sera très vite le premier.
Ouais. Et c'est vrai que il a progressé. Là, c'est vrai que moi, je m'attache de plus en plus à regarder ses progrès défensifs parce que c'est vrai que c'est une forte lacune que j'avais notée au début de saison. Et c'est vrai que là, je le vois notamment plus proche de son vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il lui laisse moins le champ. Il commence à prendre l'habitude de l'emmener un peu plus sur le côté, de l'enfermer pour éviter qu'il le prenne de vitesse ou qu'il rentre, si c'est un ailier faux pied, qu'il rentre sur son bon pied. Il est plus proche dans son positionnement, il est plus attentif à son alignement. Donc ça, c'est des choses notables sur les derniers matchs qui montrent évidemment une progression. Après, avec Allegri, je me faisais pas trop de soucis sur le fait qu'il allait lui aussi insister grandement sur cet aspect-là de son job.
Mais cette rigueur.
Ouais, exactement, cette rigueur. Mais voilà, son activité, elle est incessante, elle est infernale. Et surtout, ce qui est déroutant pour les adversaires, c'est que il est aussi à l'aise lorsqu'il mord la ligne que dans les fameux demi-espaces quand c'est l'ailier qui lui mord la ligne pour lui ouvrir le champ. Et c'est vrai qu'il a une très bonne conduite de balle, une grosse pointe de vitesse, donc il peut aussi accélérer et prendre de vitesse ses adversaires dans les demi-espaces. Donc c'est vrai que c'est des choses voilà qu'on réclame de plus en plus au niveau des latéraux. On sait que Guardiola en a fait une fixation entre guillemets au niveau de ses latéraux, et c'est vrai que Cancelo à ce niveau-là est aussi en train de démontrer des aptitudes vraiment très très importantes pour la Juve. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, il y a toujours on se dit toujours bah tiens, lui c'est le meilleur joueur de ce club-là depuis le début de la saison. Voilà, on peut le dire pour pas mal de clubs. À la Juve, c'est dur parce que le collectif est tellement fort que c'est dur d'en sortir un joueur, tu vois, entre Ronaldo, entre il y a Bernardeschi qui fait aussi un bon début de saison, il y a Pjanic qui est toujours aussi fort, il y a Chesney qui mine de rien, on n'en parle jamais de Chesney mais il est toujours présent. Et tu vois, Cancelo, est-ce qu'on pourrait pas le mettre aussi dans les meilleurs? Si, on peut le mettre, mais est-ce que c'est pas le meilleur actuel? C'est difficile. Mais aujourd'hui, son début de saison, il est exceptionnel. Et à chaque fois qu'il est bon, c'est-à-dire à peu près tout le temps, il y a toujours des gens pour rappeler le fait que l'Inter aurait dû lever cette option d'achat, aurait dû trouver une façon d'avoir cet argent-là, c'était 35 millions d'euros, pour lever cette option d'achat, parce qu'ils sont peut-être passés à côté du meilleur futur latéral droit.
Ouais, c'est vrai. Mais comme tu dis, tu as raison de le souligner, on connaît Allegri. On connaît sa rigueur tactique, sa préparation des matchs. Et c'est vrai qu'avec Cancelo, il peut que le faire progresser de ce point de vue-là. Honnêtement, quel meilleur entraîneur qu'Allegri pour le faire progresser défensivement? Pas beaucoup.
Hein. Aujourd'hui, en Serie A, non, c'est compliqué.
Donc, honnêtement, ça va devenir. Enfin, il est en train de le devenir, mais ça va devenir un joueur complet. Il a tout. Il a tout pour réussir. Et c'est dommage, comme tu dis, que l'Inter n'est pas gardé. Après, voilà, il y a eu beaucoup de difficultés dans les discussions avec Valence. L'Inter n'avait pas, on va dire, une flexibilité économique énorme une marge pour le recruter. Et d'ailleurs, si la Juve mise dessus, c'est pas pour rien, parce qu'ils ont bien compris que c'était un super joueur. Et il a réussi à se fondre dans le mécanisme de la Juve. On sait que des fois, c'est pas simple, hein. Rentrer dans ce collectif-là qui est déjà bien huilé, il faut avoir un sens d'adaptation que Cancelo a eu. Il progresse à chaque match. Et comme tu dis, d'ici quelques mois, s'il continue comme ça, ça deviendra le meilleur latéral d'Europe sans problème.
On va conclure ce podcast, Guillaume, en rappelant le programme de la 10e journée de Serie A ce week-end. Écoutez, on vous le dit à chaque semaine, mais je pense qu'il va falloir encore sacrifier quelques heures de votre vie personnelle.
Dimanche soir, peut-être.
Dimanche soir et lundi soir, hein, puisqu'on on va commencer par.
Oui, c'est vrai.
Samedi 15h, Atalanta-Parme. À 18h, Empoli-Juventus. À 20h30, Torino-Fiorentina. Ça, c'est un match qui peut être aussi très très intéressant.
Oui, c'est vrai.
Opposition de style total entre le Torino de Mazzarri et la Fiorentina de Pioli. Ensuite, le dimanche à 12h30, à l'heure de l'apéro, Sassuolo-Bologne. Ensuite notre multiplex, bon là on va pas se mentir, hein, à 15h vous pouvez aussi faire autre chose si vous avez envie, puisque à 15h vous aurez Cagliari-Chievo avec le formidable Ventura qui a retrouvé un poste, c'est très très bien passé pour sa première avec une défaite 5-1 à domicile. Ensuite on a Genoa-Udinese et la Spal contre Frosinone.
Il y a Piatek,
c'est vrai, et va-t-il encore marquer? Et puis ensuite, le dimanche, 18h, Milan-Samp. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, ça risque d'être
On vous conseille de, voilà, d'aller à 18h, on prend l'apéro devant Milan-Samp.
Ce sera peut-être le dernier match de Gattuso à la tête de l'AC Milan.
Bel optimisme.
C'est ça. Et puis ensuite, on a donc le choc Napoli-Roma à 20h30 au San Paolo. Et le lendemain, un non moins alléchant Lazio-Inter au Stade Olympique de Rome.
C'est pas mal.
On est quand même encore pas mal cette semaine.
À dimanche 18h, tu peux regarder Milan qui va se finir à 20h. Ça te laisse une marge d'une demi-heure, tu peux aller chercher un truc à manger. De 20h30, tu te cales devant le match. Et puis bah, le lendemain, c'est la semaine, il y a du boulot. C'est parfait pour un lundi soir, histoire de ne pas être trop démotivé. Tu viens de me réjouir de mon week-end et de ma semaine prochaine.
Et surtout, attendez-vous à d'autres chocs hein, dans les semaines à venir, puisque la semaine prochaine, on aura même un Roma-Fiorentina. Dans 15 jours, on a un Milan-Juventus. Ouais,
voilà. Il y a Milan-Gênes mercredi aussi.
Il y a Milan-Gênes, oui, le match en retard. Enfin voilà, il y a des chocs. La semaine d'après, il y aura encore Lazio-Milan. Ah voilà, il y a des chocs chaque semaine en Serie A et on vous conseille évidemment. Et on espère qu'à travers ce podcast... Vous êtes comme nous, des acharnés, vous allez devenir des acharnés de la Serie A, ou ceux qui suivent un petit peu moins la Serie A vont commencer à regarder un peu plus de matchs du championnat italien, parce qu'il vaut vraiment la peine d'être vu. Voilà pour ce 12e épisode du podcast Calcio et Pépé. Vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur Twitter, Calcio et Pépé Pod, c'est l'username sur Twitter. Désormais, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud, bref, à peu près partout. Vous n'avez plus d'excuses pour écouter ce podcast 100% foot italien. On se dit donc à la semaine prochaine pour débriefer la journée de Serie A. Salut Guillaume.
Salut à tous.